Radio Prague, les informations. Bonjour, l'économie tchèque s'est contractée de 4,3% en 2009. L'évêque de Hradec Králové, Dominik Duka, devrait succéder à Miroslav Volk à la tête de l'église catholique. Enfin, en sport, 92 Tchèques participent aux Jeux Olympiques de Vancouver et espèrent amener au moins 4 médailles. L'économie tchèque a donc enregistré en 2009 une baisse de 4,3% par rapport à 2008. L'information a été communiquée vendredi par l'Office tchèque des statistiques qui a réalisé une estimation provisionnelle. Au cours du dernier trimestre de l'année dernière, le PIB s'est contracté de 4,2% par rapport à la même période en 2008 et de 0,6% par rapport au troisième trimestre 2009. Il s'agit donc d'un bilan plus mauvais que celui qui avait été pronostiqué par les analystes du marché tchèque, qui s'attendait à une baisse d'environ 3%. Pour cette année, ces mêmes analystes s'attendent à une reprise de la croissance de l'économie tchèque à un taux d'environ 1,5%. Le président de la République, Václav Klaus, a reçu le nonce apostolique Diego Kosar, ambassadeur du Vatican en République tchèque, vendredi au château de Prague. Selon l'agence de presse Četeka, cette rencontre était relative à l'annonce de l'identité du successeur de Miroslav Volk dans les fonctions de cardinal et d'archevêque de Prague. Toujours selon la Četeka, l'évêque de Hradec Králové, Dominik Duka, devrait succéder à Miroslav Volk. Le Vatican pourrait confirmer l'information dès ce samedi, même si son porte parole, Federico Lombardi, ne l'a pas confirmé. L'usage veut toutefois que le chef de l'État soit informé de l'identité du nouveau cardinal et archevêque de Prague avant l'annonce officielle. Âgé de 77 ans, Miroslav Volk avait remis sa démission au Vatican en 2007 lorsqu'il avait atteint l'âge de 75 ans, selon les règles de l'Église. Le pape Benoît XVI ne l'avait toutefois pas accepté et avait prolongé le mandat de Miroslav Volk de 2 années supplémentaires. Selon l'édition de vendredi du quotidien Mladá Fronta Dnes, le ministère de la Santé entendait acheter 20 millions de vaccins contre la grippe porcine pour un montant d'environ 5 milliards de couronnes. Cette décision avait été approuvée par le gouvernement précédent dirigé par Mirek Topolánek. Un contrat avait également été établi pour 12 millions de vaccins. Néanmoins, Jan Fischer, après son arrivée à la tête du gouvernement, a annulé la transaction, la trouvant exagérée. À peu de choses près, commente le quotidien, la République tchèque se serait donc retrouvée dans la même situation que la France ou la Belgique, avec un nombre de vaccins plus important que la population. Le gouvernement a finalement commandé 1 million de vaccins pour un montant légèrement inférieur à 10 millions d'euros. Actuellement, 64 000 personnes ont été vaccinées. On passe au sport. 92 Tchèques, parmi lesquels 23 joueurs de l'équipe de hockey sur glace, participent aux 21e Jeux Olympiques d'hiver, dont la cérémonie d'ouverture se tiendra vendredi soir à Vancouver, au Canada. Le porte-drapeau de la délégation tchèque, on va y arriver, est Jaromír Jágr, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du hockey tchèque. Durant les 17 jours de compétition, les Tchèques espèrent faire au moins aussi bien qu'à Turin, il y a 4 ans, lorsqu'ils avaient remporté 4 médailles, dont une d'or. On termine avec un mot de météo. C'est un temps couvert qui continue de régner sur l'ensemble du territoire ce samedi, jour de la fête des Vienceslas. Les chutes de neige restent très fréquentes. Les températures sont stables et varient entre moins 3 et 0 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Le regard que porte Prague sur le plan d'aide financière pour la Grèce, convenu au sommet exceptionnel jeudi à Bruxelles et qui ne fait pas l'unanimité au sein des 27, sera le premier thème de ce fait et événement. Un mois après le séisme dévastateur qui a frappé Haïti, le premier chirurgien tchèque rentré d'une mission en Haïti avec Médecins sans frontières apportera son témoignage. Ce sera juste avant de vous proposer un entretien avec le chanteur et compositeur franco-algérien Rachita, qui se produit cette semaine devant la salle pleine de Lucerna Music Bar à Prague. On vous présentera aussi la rubrique économique. Voilà, c'est tout pour le sommaire de cette édition. Très bonne écoute à toutes et à tous. Le scénario grec peut-il se reproduire en République tchèque à l'issue du sommet de Bruxelles qui avait pour centre d'intérêt le sort de la Grèce? La question semble préoccuper l'opinion publique, les politiciens et les économistes du pays. La Grèce est un avertissement pour les représentants politiques tchèques. C'est ce que déclare le ministre des Finances, Eduard Janota, dans les pages de l'édition de ce vendredi du quotidien Pravo, et d'ajouter « du moment où les finances publiques se trouvent sur une mauvaise trajectoire, les investisseurs deviennent prudents et se retirent. Cette difficile situation demande des solutions radicales ». Selon le Premier ministre Jan Fischer, l'Union européenne se devait d'aider la Grèce, qui se trouve actuellement dans une grave situation de déficit public, et il s'est déclaré d'accord avec l'Allemagne et la France pour une aide européenne. Dans l'édition de ce vendredi du quotidien économique Hospodarske Noviny, l'économiste Ludwig Niedermayer, ancien vice-gouverneur de la Banque nationale, assure que les scénarios grecs ou hongrois ne menacent pas pour l'instant la République tchèque. De notre côté, il évoque certains risques liés au fait que la Tchéquie n'appartient pas à la zone euro, en disant « il y a une différence fondamentale entre la Grèce et la Tchéquie. Les Grecs ont l'euro, voilà pourquoi leurs économies ne sont pas en fait menacées ». Il se déclare donc favorable à l'adoption de la monnaie européenne sans pourtant préciser dans quelle perspective ça pourrait se réaliser. D'après ses propres paroles, la République tchèque se voit menacée plus par une crise monétaire que par une banqueroute de l'État. Selon l'ex-ministre des Finances Miroslav Kalousek, la zone euro avait deux possibilités. En décidant d'aider la Grèce, elle a envoyé un signal qu'il était possible de se comporter de façon irresponsable. Mais la seconde alternative aurait signifié la dévaluation de l'euro, la détérioration du niveau de vie de l'ensemble de la population de la zone euro. Et d'ajouter qu'il faut s'attendre désormais à une plus grande vigilance de l'Union européenne à l'égard des maillons faibles de la zone euro. L'ex-premier ministre Mirek Topolánek considère le cas grec comme un rappel, car les règles ne doivent pas être violées, et comme une situation dans laquelle nous ne voulons pas et ne devons pas nous retrouver. Le chirurgien Jan Trachta, 32 ans, est le premier Tchèque retourné d'une mission de Médecins sans frontières en Haïti, puisque la charte des médecins est de soigner et aussi de témoigner. Voici la suite du témoignage du médecin qui s'est envolé pour Haïti moins de 24 heures après le désastre. Les propos ont été recueillis par Yarka Gisubelova.
Les débuts étaient sauvages, c'est ainsi que Jan Trachta décrit la situation à son arrivée à Carrefour, ville satellite au sud-ouest du Port-au-Prince. Les avions acheminant du matériel médical ne pouvaient pas atterrir dans la capitale. C'est pourquoi il a fait sa première intervention, une césarienne, en pleine rue, avec pour seul instrument stérile des gants. Deux jours plus tard, l'équipe de logisticiens tchèques a ouvert un hôpital d'une capacité de 70 lits dans la zone de Léogan où la pénurie de soins médicaux était totale. Les blocs opératoires ont été aménagés en plein air car les patients ainsi que les membres du personnel de Médecins sans frontières avaient peur de rester dans les bâtiments en dur en raison des répliques du séisme, raconte Jan Trachta.
Nous étions dehors sous un auvent en tôle où quatre lits servant de salle d'opération et de réveil étaient aménagés. Nous étions deux chirurgiens et trois anesthésistes qui endormaient des patients, toujours deux à la fois, pour ne pas perdre le temps lors des interventions. De cette manière, nous avons fait plus de 20 opérations chirurgicales par jour. À côté des blocs opératoires, nos collègues soignaient chaque jour plus d'une centaine de patients.
Jan Trachta se rappelle de nombreuses situations paradoxales vécues dans ce qu'il appelle le cirque humanitaire qui règne en Haïti le premier jour après le désastre. Une fois, il a été appelé à l'hôpital de campagne d'un pays dont il ne veut pas révéler le nom pour aider à sauver la vie d'une femme après un accouchement compliqué. Une trop grande spécialisation a empêché ses collègues médecins de résoudre une situation standard. Ce cas n'était pas le seul celle où Yantrakta a pu mettre à profit l'expérience de ses deux précédentes missions avec Médecins sans frontières au Congo. À la question de savoir s'il a vécu un moment critique en Haïti, il répond qu'il y en a eu plusieurs et que le stress l'a accompagné pratiquement pendant toute la mission.
La première journée, quand j'ai opéré à Carrefour, sur le trottoir devant l'ancien hôpital détruit, j'avais sur la table un enfant avec une jambe écrasée. Autour de moi, une foule de personnes, et d'un coup, j'ai senti que l'auvent au-dessus de moi commençait à vibrer. J'ai d'abord cru que les logisticiens avaient mis en marche un moteur. Or, les gens se sont mis à crier et à courir. J'ai compris qu'une nouvelle vague du séisme arrivait. Personne d'autre n'est resté là, juste nous trois, un chirurgien anglais, moi et une anesthésiste allemande, sans oublier notre petit patient. En 3 secondes, tout l'emplacement devant le bâtiment s'est vidé.
À la question de savoir dans quelle mesure la mission en Haïti l'a marqué et s'il est possible de faire une comparaison avec ses missions précédentes au Congo, Yantrakta répond.
Des deux côtés, les souffrances sont énormes et dépassent l'entendement humain. Le drame vécu est inimaginable et on n'a parfois pas la force de l'accepter. La catastrophe en Haïti est probablement la plus importante au cours de la décennie écoulée, jusqu'à 300 000 blessés en 45 secondes, puis des jours et des semaines d'attente de soins médicaux. Cette concentration de souffrance est sans précédent.
C'était Yantrakta, le médecin tchèque qui a travaillé dans une équipe internationale de Médecins sans frontières en Haïti. Mercredi, le chanteur-compositeur franco-algérien Rachid Taha s'est produit au Lucerna Music Bar. Ce n'était pas la première fois que le chanteur se présentait au public tchèque, qui avait déjà pu l'écouter dans plusieurs festivals, à Ostrava ou à Trutnov. Mais l'intérêt est toujours là, et même grandissant pour sa musique, mélange de rock, de punk et de mélodies arabes. En tournée pour son dernier album, intitulé tout simplement « Bonjour », Rachita a répondu aux questions d'Anclair Veluire.
Hello Kitty, bonjour, violente femme. Bonjour Grace Kelly, bonjour madame. Hello Superman, bonjour solitaire. Bonjour tous les jours, tout à l'envers.
Bonjour Rachida.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour, c'est le nom aussi de votre dernier album que vous avez fait préparer avec Gaëtan Roussel de Louisata. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet album?
L'histoire, elle a commencé, j'avais envie de faire un espèce d'album country qui fait la trilogie entre l'Orient, l'Afrique et la France. Enfin, quadrilogie, disons, avec les États-Unis. Donc je voulais l'enregistrer à Nashville et j'ai commencé, parce que j'ai des studios à Paris, j'ai commencé à faire des maquettes. Et j'ai rencontré Gaëtan. Au départ, j'avais envie de faire juste un duo avec lui. Et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'on avait des points communs sur la musique. Je lui ai dit, pourquoi ne pas réaliser tout l'album. Et comme il travaillait, moi, j'étais très ami avec Alain Bachung, pour moi, qui est l'un des plus importants musiciens du monde. Et il travaillait avec Marc Platy. J'ai dit, c'est génial, parce que c'est un hommage. Et comme ça, c'est comme ça qu'on l'a fait à Paris et à New York.
Sur la musique, j'ai lu que vous avez remarqué, je ne sais pas si vous le regrettez, mais que vous êtes toujours en France classé comme musique rail, alors que dans d'autres pays, on vous classe plutôt rock. À votre avis, vous êtes perçu comment ici, en République tchèque ou en Europe centrale?
Rock, quand je fais Africa Express avec Damon Albarn, ou je joue avec Tony Allen, où il y a aussi le bassiste des Clash, on joue ensemble, ou avec Mick Jones, ou Brian Eno, ou Stevie Nicks, ça fait quand même 30 ans que je travaille avec Stevie Nicks quand même, où je chante avec Robert Plant de Led Zeppelin, où je travaille avec Don Rose, qui est le producteur de Iggy Pop, de Bob Dylan, de Rolling Stone. J'ai eu le prix du meilleur album en Angleterre, ou d'après Mojo, d'après Indépendante, pour eux, je suis le plus grand rocker du monde, etc. En France, ils font abstraction de tout ça.
Personnellement, depuis le Rock El Casbah, je vous classe plus dans les vrais rockers, mais en voyant la page internet et le dernier album, c'est très kitsch, alors ça casse un peu le mythe.
Non, c'est complètement romantique, et c'est très punk. Attention, les punks, c'est des romantiques, ils sont kitsch. Pour moi, la plus grande star du monde, c'est Elvis Presley. Il n'y a pas plus rocker qu'Elvis Presley. Il n'y a personne qui l'égale. Et le rock, c'est kitsch.
En ce moment, en France, il y a le fameux débat sur l'idée d'étendue nationale.
Ça y est, ils l'ont abandonné.
Je ne voulais pas forcément vous demander votre avis, mais je veux bien l'avoir. Mais ce qui m'intéresse aussi, et c'est en voyant encore la télévision tchèque qui vous a posé une question dessus, et en tant que grand voyageur ou citoyen du monde, est-ce que vous avez perçu des différences dans la façon dont on vous interroge sur ce thème-là?
On m'interroge comme si j'étais un spécialiste de... D'ailleurs, tu sais, la preuve, on m'a même demandé de venir faire une résidence pendant un an aux États-Unis, dans une université, pour parler de la vie sociale des immigrés. On a une manière de voir les choses. Par exemple, ici, en Tchéquie, on a des problèmes avec les Roms, enfin les Tziganes, etc. En Allemagne, avec les Turcs, en Espagne, avec les Marocains, etc. En Italie, avec tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux? Le débat, il est complètement faussé dès le départ, parce que c'est un faux problème, parce que c'est une manière déguisée de cacher les vrais problèmes et de pointer du doigt les nouveaux monstres. Depuis 2001, les monstres, les aliens, c'est les musulmans. Moi, ce qui est vachement intéressant, quand tu regardes le monde et les artistes, beaucoup d'artistes, par exemple, qui sont originaires d'Afrique du Nord, la plus grande architecte, c'est celle qui a fait le musée à Rome, c'est une irakienne. En France, les plus grands cinéastes, Caïd et César, c'est la graine et le mulet, c'est le prophète, c'est un Algérien, un Français d'origine algérienne qui a fait le scénario, etc. Donc, malgré tout, on est encore là.
Est-ce que vous pensez que c'est un rôle de l'artiste ou du musicien de parler de politique ou de dire des choses sur la politique?
Non, je dis non, mais c'est... Son rôle, c'est de ne pas se cacher non plus derrière le voile, je précise bien. Il faut qu'il donne son avis aussi, oui, c'est important qu'il donne son avis. Parce qu'il n'est pas... Il n'est pas anodin. De toute façon, même quand tu parles d'un plat, qu'est-ce que tu manges, c'est un avis politique. Donc je pense que c'est important, oui. Il ne faut pas se cacher. Les vrais artistes, les vrais, comme Zappa, comme Brian Eno, comme Mick Jones, comme Joe Strummer, comme tout ça, ils donnent leur avis sur la politique, bien sûr, oui. Oui. Non, mais je suis pour...
C'était donc les faits événements en République tchèque. Notre programme se poursuit avec notre volet économique dans lequel nous reprenons un thème qui va bien avec la fête de la Saint-Valentin.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette émission, nous sommes dans la pâtisserie Saint-Tropez. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Je suis Nadine Musso.
Alors Nadine Musso, on s'était rencontré il y a quelques mois. C'était pas dans le même quartier, c'était dans le quartier de Vinohrady, là où vous aviez ouvert une première boutique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
C'était un quartier magnifique. Cependant, si vous voulez, il aurait été certainement très difficile de rester en activité dans ce quartier. Difficulté avec, je pense, les propriétaires que nous avions installé notre magasin.
qui était pas loin de la radio d'ailleurs. Alors,
oui, c'était pratique pour nous. Et oui, bien sûr. Là maintenant, il faut que vous fassiez un petit effort et vous veniez jusqu'au centre-ville.
Exactement. Et alors, on est donc au centre, dans le passage qui s'appelle Lucerna. Et vous venez d'ouvrir cette nouvelle pâtisserie avec un nouveau nom, donc pâtisserie Saint-Tropez, avec quand même une nouvelle forme d'architecture intérieure qui permet aux clients de voir comment ça se passe en fait.
Tout se passe là, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité aussi, on vend une pâtisserie traditionnelle, donc il fallait aussi démontrer que on fait tout de début à la fin. Donc vous voyez, là, il y a un biscuit qui attend. Tout à l'heure, si on voit à nouveau les pâtissiers revenir, on verra le biscuit se monter.
C'est quoi un biscuit exactement ?
Un biscuit, eh bien, c'est un mélange savant selon farine, beurre, œuf. Parfois, il n'y a pas de farine, on remplace par chocolat. Parfois, il y a des amandes. Il y a autant de recettes qu'il y a de biscuits. D'ailleurs, c'est parfois bien difficile à expliquer que pour autant, ils sont différents.
Et alors, est-ce qu'on arrive à trouver ici, en République tchèque, tous les ingrédients nécessaires ? Parce que vous veniez de Fréjus, où vous avez depuis longtemps une boulangerie-pâtisserie.
Pâtisserie uniquement. Même activité qu'ici, voilà.
Alors, est-ce que vous trouvez ici les ingrédients qui vous permettent de faire la même chose qu'à la maison ?
Maintenant, oui. En réalité, voilà aussi l'expérience, si vous voulez, qui aura été probante, c'est qu'un an passé nous aura permis aussi, et nous, de trouver des fournisseurs, et que les fournisseurs viennent à nous. Ce qui était aussi une bonne chose.
C'était quoi les difficultés avant ? On ne trouvait pas de quoi ?
Ah bien, je me souviens encore de la première fournée de croissants qu'on a fait, où effectivement la farine ne convenait pas. Ensuite, le beurre n'était pas aussi constitué de la même manière, parce que c'est vrai qu'on utilise un beurre particulier lorsqu'on fait un feuilletage au beurre, donc le beurre vient de France, par la société quand même président qui existe en République tchèque, mais avec un beurre de tourage, comme ça s'appelle, pour faire des croissants feuilletés chaque matin.
Alors, on parlait à l'antenne la semaine dernière des conséquences de la crise sur les produits de luxe. On pourrait également mettre la pâtisserie française dans une certaine catégorie de luxe pour les consommateurs tchèques, parce que ce n'est pas l'habitude qu'ils ont de consommer des produits un peu haut de gamme en pâtisserie. Est-ce que, alors vous venez d'ouvrir, vous ne pouvez pas comparer avec les années précédentes, est-ce que parmi ce que vous voyez dans d'autres pâtisseries ou dans d'autres quartiers peut-être aussi, on a du mal en ce moment avec des produits gastronomiques ?
Oui, c'est vrai que là je vais avoir un jugement complètement erroné, parce qu'il y a une semaine, si vous voulez, d'activité, je vais avoir du mal quand même à être objective. Je pense que, cependant qu'à un moment donné, ou lorsqu'on continue à faire un produit de qualité comme on a toujours fait, à nous aussi de réguler notre production, c'est-à-dire pour vendre toujours un produit irréprochable de qualité, il y a toujours un moment où, peut-être difficulté ou pas, on a envie de se faire plaisir, s'asseoir ou emmener 2-3 gâteaux parce qu'on sera invité à déjeuner ou à dîner. Peut-être parce que justement, par chance aussi, on va pas forcément au restaurant et qu'on va peut-être plutôt préparer à manger à la maison et que là, le pâtissier a sa place. Et voilà. Peut-être aussi, on est peut-être 8 convives à table, on rendra que pour 4, mais cependant, ça reste quand même, si vous voulez, un créneau qui, à mon sens, il faut conserver.
Alors, quelle est la clientèle que vous visez avec cette nouvelle pâtisserie ? Est-ce que c'est les particuliers ? Est-ce que vous avez envie aussi de faire ce qu'on appelle du catering pour les entreprises ?
Oui, évident. Bon, il est vrai que de toute façon, on peut pas aller trop vite. Il faut déjà reprendre ses marques. On a une nouvelle activité. C'est vrai. On dit, c'était bien notre souhait à l'origine de rejoindre le centre-ville, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a automatiquement beaucoup plus de mouvement, mais une certaine adaptation à nos produits, qu'on n'est encore pas tout à fait sûr, bien sûr.
Alors je crois que c'est d'ailleurs un investisseur tchèque qui vous a permis d'ouvrir dans le centre.
Il est vrai que nous avons poursuivi qu'à cette condition, bien sûr. Donc ça veut dire que quelque part aussi, il y avait une observation importante, c'est-à-dire que la clientèle était aussi essentiellement à Italska, donc la première pâtisserie ouverte, pour 70% une clientèle tchèque. Donc ce qui veut dire que quelque part, il y a un créneau pour séduire certains palais qu'on imagine parfois pas trop préparés. Mais cependant, la pâtisserie, c'est du pas à pas. Ça veut dire qu'on mange un gâteau aujourd'hui, on dit tiens, il est bon, je reviendrai une prochaine fois. Je pense que c'est une bataille de toute façon tout à fait plausible et prévue.
Vous avez eu du mal à trouver cet investisseur ou comment ça s'est fait concrètement ?
Non, je ne peux pas dire qu'on ait eu du mal. Vous savez, à un moment donné, il y a un croisement qu'on peut appeler aussi de la chance. Les gens se rencontrent et imaginent qu'ils vont pouvoir se marier. C'est un mariage. On est mariés, ça y est.
Pour le meilleur et pour le pire.
Voilà, pour le meilleur et pour le pire. Et un mariage, ben, ma foi, ça se vit au quotidien, donc on verra à l'avenir. Cependant, c'est vrai que là, si nous sommes en train de discuter aujourd'hui, si la vitrine est débordante de gâteaux, si les quiches sont apparues, si les croissants se sont faits ce matin, c'est parce qu'effectivement, il y a eu cet assemblage.
Et alors, vous parliez de pâtisserie et croissants, mais juste quelques mètres plus loin, il y a les chocolats, puisque j'imagine que pour vous, l'échéance la plus importante à court terme, c'est Pâques.
Voilà, tout à fait. Donc, regardez, le laboratoire a fait des performances, c'est-à-dire qu'en réalité... Quand on a parfois pas forcément tout son matériel, les moules idéales, on a toujours à un moment donné un pâtissier qui a de l'imagination, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il nous a fait ratatouille, c'est comme ça qu'il nous a fait des montages parce qu'on avait dans nos valises ce moule avec les mains et qu'à un moment donné, si vous voulez, un classique œuf peut devenir un peu harmonieux parce qu'il a un décor particulier dessus. Oui, c'est un véritable challenge parce qu'en 10 jours, il nous a fallu produire tout ceci en même temps, bien sûr.
Et les Tchèques achètent aussi des œufs de Pâques en chocolat ?
Ah oui, bien sûr. Je suis d'ailleurs, effectivement, au centre de ma joie. J'ai vendu mes chocolats à des messieurs dames tchèques. D'abord aussi ceux qui nous découvrent et ceux qui nous redécouvrent et qui sont contents de nous trouver ouverts à nouveau.
C'est tout pour aujourd'hui. Chers amis, je vous souhaite un très beau week-end et vous dis au revoir. À demain.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours.